Chapitre 70. L'Institut de Monchaux se situait à une vingtaine de kilomètres au sud de Paris, dans un environnement agréable avec la Seine d'un côté et la forêt de l'autre. Un jardin planté de marronniers et de tilleuls ouvrait sur une imposante bâtisse 19e de 4 étages, à mi-chemin entre la maison de maître et l'hôtel particulier. Sa façade de briques rouges et jaunes était protégée par une toiture abrupte recouverte de tuilettes noires qui s'assombrissaient à mesure que le soleil tirait son ultime révérence sur l'année 91. Florence parcourut l'allée pavée d'un pas déterminé, comme si elle courait après le temps. Charcot n'avait pas encore donné de nouvelles, mais il devait certainement arriver au terme de ses recherches. Les liens du passé se resserraient, les secrets allaient remonter à la surface, la flic en avait la conviction. Elle franchit la porte d'entrée et se retrouva dans un espace typiquement administratif et hospitalier. Un accueil, des fléchages vers des services, du personnel en tenue de ville, mais également en blouse, circulant dans les différents couloirs ou escaliers, et cette odeur si caractéristique. On entendait des airs de musique venus de l'étage, des clameurs parfois. L'inspectrice s'avança jusqu'au comptoir derrière lequel une jeune femme faisait du rangement. Elle présenta sa carte de police et expliqua la raison de sa visite. Elle souhaitait des renseignements sur Albert Lagarde, employé ici même avant 1958, et se demandait s'il y avait encore, à tout hasard, des salariés de l'époque dans les locaux, ou si, au pire, on pourrait lui fournir les coordonnées du directeur d'alors. Son interlocutrice regarda l'horloge d'un air las. « Je sais, » anticipa Florence, « mais c'est important. » La femme décrocha son téléphone, échangea quelques mots et raccrocha. Grégoire Millet va vous recevoir, c'est le chef du service éducatif. Il est à deux doigts de la retraite et a fait toute sa carrière entre ses murs. L'homme ne se fit guère attendre. Longs cheveux poivre et sel ébouriffés, barbe de 3 jours, chemise épaisse à carreaux par-dessus un pantalon en velours côtelé. Davantage style babacool que chef d'un service quelconque. Il marqua sa surprise lorsqu'il serra la main de la flic.
J'ignorais qu'il y avait... Il faut un début à tout, y compris dans la police, l'interrompit Florence.
Le fait qu'elle le coupe d'emblée sembla le perturber. Son visage gris, tout en rides, garda néanmoins son expression cordiale. Il lui fit signe de le suivre.
La secrétaire m'a indiqué que vous souhaitiez obtenir des renseignements sur Albert Lagarde. Si ma mémoire est bonne, c'était il y a plus de 30 ans. Qu'est-ce que vous voulez savoir au juste?
J'éclaircirai tout ça quand nous serons calmes dans votre bureau. Ça devrait être rapide. L'heure du réveillon approche et on a tous envie de rentrer chez soi.
Comme vous dites.
Que faites-vous précisément dans ce centre?
Nous sommes une structure publique qui existe depuis 1922. Nous accueillons à ce jour 40 enfants pour des séjours de plusieurs semaines. Ils ont entre 8 et 15 ans et présentent des troubles du comportement ou de la personnalité, voire les deux.
Ce qui signifie?
Phobie sociale ou scolaire, psychose infantile, troubles paniques. Vous trouverez parmi le personnel encadrant des enseignants, des éducateurs et des professionnels de soins comme des médecins ou des psychologues. Nous ne sommes pas un établissement psychiatrique. Nous médicamentons peu et nous ne sommes pas favorables à la contention. Le dialogue et la pédagogie avant tout.
Ils passèrent devant des escaliers et s'enfoncèrent dans un couloir visiblement dédié à l'administration.
Puisque l'objet de votre visite concerne l'histoire de l'Institut et Albert Lagarde, je me dois de vous informer que jusqu'en 1968, nous possédions également une très grosse unité baptisée le CEDIX, le Centre d'études des désordres infantiles à caractère sexuel. Nous y traitions entre autres des gamins sujets à des CSP, autrement dit, dans le jargon, des comportements sexuels problématiques, manipulation du sexe seul ou devant des tiers, utilisation constante de mots sexuels, attouchement sur d'autres mineurs, orientation homosexuelle.
Orientation homosexuelle? Vous rangez ça avec toutes ces déviances?
Pas moi. Mais n'oubliez pas qu'on parle des années 50 et 60. Sans doute ignorez-vous que l'homosexualité n'a été supprimée de la liste internationale des maladies mentales que l'an dernier. Par l'OMS.
Disons que je connais quelques homosexuels et ils sont largement plus sains d'esprit que la plupart des hétéros. Enfin bref, j'imagine que je ne me trompe pas en supposant qu'Albert Lagarde travaillait dans cette unité.
En effet, il en a pris la tête de 1950 à 1957 avant de démissionner. Bon vent à lui.
Une chose était sûre, même après 3 décennies, Grégoire Millet semblait garder une certaine rancœur contre Lagarde et un souvenir intact de lui. Il ouvrit la porte de son bureau et invita la flic à s'asseoir. Celle-ci sortit une photo de sa pochette et la lui tendit. Tout ce que nous savons de lui, c'est qu'il est sur ce cliché, vraisemblablement pris à l'hôpital Meurin de Brest, aux côtés d'un chirurgien en urologie qui se prénomme André Escrémieux. Le nom de ce médecin vous dit-il quelque chose?
Non.
Il tapota sur le visage de Lagarde.
Alors c'est là-bas qu'il s'est installé après, au fin fond de la Bretagne. Dans un hosto, évidemment. Et pourquoi le recherchez-vous?
Nous estimons que sa vie est aujourd'hui en danger. Florence fouilla dans sa pochette et lui donna le paquet de clichés des enfants nus.
Nous avons de bonnes raisons de penser que Lagarde a été impliqué, lorsqu'il a exercé à l'hôpital Meurin, dans quelque chose de grave en lien avec des mômes dont il s'est occupé. Il en va de même pour le chirurgien, André Escrémieux.
Grégoire Millet observa les photos jusqu'au bout, les mâchoires serrées.
« Parlez-moi de lui, » fit-elle, « de son boulot ici, de son rapport avec ses patients. »
Il se leva et alla se poster devant la fenêtre donnant sur le jardin, les mains dans le dos.
« Il est arrivé à l'Institut en 1950, quelques années après moi. Je travaillais au CEDIX et notre directeur de l'époque devait recruter un responsable, puisque le précédent était parti à la retraite. Lagarde avait à peine 30 ans, il était plein d'avenir. » Il avait écrit une thèse remarquée sur l'hermaphrodisme, un phénomène qui le fascinait, et avait commencé à mener des recherches universitaires sur ce qu'il appelait la malléabilité psychosexuelle dans la petite enfance.
Vous m'expliquez ?
Une théorie selon laquelle tous les nouveau-nés sont des pages blanches et que c'est l'environnement dans lequel ils évoluent qui détermine leur orientation sexuelle. Lui, comme de nombreux autres, considérait que n'importe quel enfant, garçon ou fille, pouvait être élevé en tant qu'individu de genre opposé si on s'y prenait très jeune. Ça paraît aberrant aujourd'hui, mais c'était la réalité dans les années 50. Et ce courant de pensée faisait presque l'unanimité parmi les cliniciens et les scientifiques.
Florence écoutait religieusement. Le sujet qu'il évoquait semblait en parfaite adéquation avec leur enquête. Millet jeta un œil vers elle.
Pour être franc, dès le début, je n'ai pas accroché avec Lagarde. C'était un intellectuel théoricien, je le trouvais hautain. Il transpirait l'ego et l'ambition. Les gamins qu'on traite ont besoin qu'on soit proche d'eux, qu'on comprenne le fond de leurs problèmes. Lagarde ne les a jamais considérés autrement que comme des rats de laboratoire, destinés à nourrir ses statistiques et ses études.
Il désigna sa pipe, posée sur le bureau.
« Vous permettez ?»
L'inspectrice hocha la tête. Il bourra l'objet de tabac blond et fit craquer une allumette.
« Pour aller droit au but, est-ce qu'il a eu des comportements inappropriés envers des jeunes patients de l'Institut ?»
lança Florence.
Question claire qui mérite une réponse aussi claire. Tout paraît si évident avec le recul. Vous savez, Albert Lagarde a été recruté pour faire le bien. Mais, en définitive, il n'a répondu que le mal.